Kiosque Magazine.
Bonjour les amis. Eh bien oui, c'est la grosse voix de Clotilde, celle qu'en principe vous entendez dès 10h pour animer l'émission au quotidien. Je suis là pour le moment avec ma camarade Dominique. Comment ça va,
Dominique? Bonjour Clotilde, je suis ravie de... d'être avec toi, c'était pas prévu. Mais bon.
C'était pas prévu au programme. On va vous mettre, vous savez qu'on ne vous cache jamais rien et nous ne sommes pas les seuls à être dans l'embarras ce matin. Il y a ce que j'imagine être un gros problème sur la ligne verte de métro. Et moralité, bien tous nos camarades sont coincés sur la ligne verte en ce moment. C'est-à-dire Safia, Sophie aussi, Sophie Chauvance et notre camarade aussi au son, à la technique, notre ami Jean-Sébastien Liberté. Du coup, c'est Julien Tardif qui est revenu. Comment ça va, mon Julien? Hein, ça va bien. Le Julien qui maintenant est à l'enregistrement sonore de livre et j'ai vite couru là-bas. J'ai dit, Julien, j'ai besoin de toi, mon amour. Et il est venu tout de suite. Il n'y a vraiment pas de problème. Dominique, on va commencer toutes les deux l'émission. Qu'est-ce
ben
que tu
oui,
veux?
Oui, parce on va, que... je pense, j'espère que les autres vont arriver, les pauvres.
Ah, ben sinon on va improviser. Ben
tout
oui,
à fait.
Ben oui, oui, ben oui. Oui. Tu voulais nous parler d'un sujet précis ce matin?
Oui, moi je voulais vous parler météo. J'ai un sujet, un papier, accro à la météo, et c'est dans le Véro Magazine, et c'est par Nicolas Giziger.
Et en gros, voilà. Pour nous mettre en appétit, est-ce qu'on est des malades de la météo?
Oui, on est des malades de la météo, ça c'est certain, mais on n'a peut-être pas tort d'être des malades de la météo. Voilà.
Ah, parfait, ça nous met l'eau à la bouche. Écoutez, moi j'ai quelques petits sujets pour vous qui concernent notamment l'hygiène dentaire, qui concernent également les pommes. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux qu'il faut manger une pomme par jour pour éviter d'aller chez le médecin? Est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Et idem pour les carottes. Est-ce que les carottes c'est bon pour les yeux? Est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Je ne sais pas si on a un petit instru pour faire un petit pont musical, mon ami Julien, ou si on n'en a pas. On n'en a pas pour l'instant, on commence tout de suite avec... Alors on y va tout de suite, Dominique, avec ton sujet sur la météo.
Voilà. Alors, ciel rouge le matin, pluie en chemin, ciel rouge le soir, laisse bon espoir. Autrefois, nos ancêtres observaient patiemment le ciel pour comprendre les cycles de la nature qu'ils résumaient en des proverbes rimés qui s'imprimaient dans la mémoire. Depuis, l'homme moderne a mis Dame Nature au pas et les dieux des orages et des vents ont cédé la place à de simples phénomènes physiques qu'on sait expliquer et prévoir. Aujourd'hui, grâce à nos nombreuses stations météo, à nos satellites et à nos radars, la fiabilité d'une prévision sur une période de 48 heures est de 75%. Et nous sommes devenus si habiles à nous protéger des intempéries que, même dans un pays aussi rude que le Canada, davantage de personnes meurent en tombant d'une échelle que des aléas climatiques. Pourtant, inexplicablement, la météo est une véritable obsession du monde moderne. Les bulletins de prévision battent des records d'écoute. Des émissions entières sont consacrées aux intempéries et les applications de météo mobile pour les téléphones intelligents se comptent par milliers. Chez nous, ce phénomène prend des proportions étonnantes. Selon le courtier montréalais Influence Communication, le poids médiatique de la météo en 2013 au Québec était de 1,52%, soit 6 fois plus que celui de l'éducation. Si les météorologues passent leur temps à observer le mouvement des nuages, ils gardent les pieds bien sur terre quand on leur parle d'une obsession. Selon Pascal Yakouvakis de Radio-Canada, notre intérêt pour la météo est parfaitement justifié. C'est une question de bon sens. On peut avoir des variations de 20 degrés en une journée et on a besoin d'être prêt. David Phillips, climatologue senior d'Environnement Canada, est du même avis. Je dis toujours, au Canada, si vous voulez savoir quel temps il va faire, ne regardez pas seulement par la porte d'en avant, regardez aussi par celle d'en arrière. Nous ne parlons pas de la météo parce que nous sommes des gens ennuyeux. Nous avons un véritable buffet de phénomènes climatiques. Des tempêtes de vent, de la pluie verglaçante, des inondations, des canicules. Chaque année, 3 millions d'éclairs touchent le sol et on compte 6 ou 7 tornades au Québec. Certains pays n'ont que 2 saisons. Nous en avons 4 et parfois nous pouvons avoir les 4 en une journée. Nous ne pouvons pas nous permettre de sortir en t-shirt le matin sans savoir si nous aurons besoin d'un manteau le soir. Notre climat a beau être rude et changeant, les statistiques montrent que nos consultations des bulletins météo relève davantage de la compulsion que de la simple planification de nos activités. De tous les sites gouvernementaux, le plus visité est celui d'Environnement Canada. Il compte 53 millions de clics par mois. Le site de l'Agence de revenus Canada, lui, en a 88 millions par année. De même, 93% des Canadiens consultent les prévisions météo une fois par jour et les deux tiers des gens décident de leurs activités en fonction d'elles. Selon les psychologues, notre météomania est le symptôme de notre besoin typiquement moderne de tout contrôler. C'est très bien de se projeter dans l'avenir si ça nous permet de penser aux activités qu'on a envie de faire, dit la psychologue Élise Castonguet. Mais l'autre facette, c'est qu'on peut faire ça par besoin de contrôle. Dans ce cas-là, c'est le signe d'une anxiété sous-jacente. Ça ressemble à la pensée magique des personnes compulsives. Elles pensent que si elles nettoient leur plancher 7 fois, la journée du lendemain se passera bien. C'est une façon de se protéger de l'insécurité. La multiplication des applications météo pour les téléphones intelligents est la meilleure expression de ce phénomène. Elles rivalisent toutes de précision. Par exemple, alors que l'Environnement Canada propose des prévisions heure par heure, le site AccuWeather offre un minute cast, soit une prévision minute par minute. Il suffit d'y entrer une adresse pour recevoir des alertes comme « neige dans 118 minutes à votre position ». Le succès de ces applis au Canada est particulièrement frappant. En décembre 2013, elles arrivaient en tête des palmarès. 11,9 millions de consultations contre 11,1 millions pour les réseaux sociaux. Tous les dictionnaires le disent. Parler de la pluie et du beau temps, c'est ne parler de rien. Et pourtant, ce rien cimente nos rapports sociaux, à tel point qu'on ne sait pas ce qu'on ferait sans lui. La météo est le sujet idéal pour engager la conversation avec un collègue muet devant la machine à café ou un prélude subtil à une discussion sur nos choix vestimentaires. Elle nous donne l'autorisation de nous plaindre sans honte quand on a passé une demi-heure à déblayer notre voiture. Elle est le parfait bouc émissaire quand nous voulons annuler un souper chez la belle famille. Et comme l'ont toujours dit les poètes, la nature est aussi le miroir de nos états d'âme. C'est pourquoi rien ne nous fait autant plaisir que des soleils bien ronds et bien jaunes au-dessus des cases samedi et dimanche, synonyme de mille et une activités, et que les lundis pluvieux sont le symbole parfait du retour au travail. Cependant, ces associations d'idées stéréotypées montre aussi que nous ne prenons pas le temps d'écouter la nature ni de nous écouter. On se dit que la pluie, c'est déprimant et que le gros soleil, c'est réjouissant, explique Élise Castonguet. Mais quand il pleut, c'est un moment de repos pour la nature. Et ça devrait l'être aussi pour nous. C'est un temps où il fait bon rester bien emmitouflé. Ça a un effet cocon. Inversement, une grosse chaleur peut être épuisante. On cherche l'ombre pour se reposer un peu. Un de mes patients qui est dépressif m'a dit un jour que quand il faisait beau, c'était encore pire pour lui. Ça lui montre qu'il devrait se sentir bien et que ce n'est pas le cas.
Se font beaucoup moins de bien que de tort. Sur tes deux oreilles tu dors encore. Des dizaines de tempêtes ont soufflé, des éclairs ont tonné par milliers. La rivière a même de son lit débordé. Toi tu devrais peut-être y rester. Rendors-toi. La tourmente est encore au centre de l'histoire. C'est sans même arriver à la voir. Que cette chose déchue qu'on appelle l'espoir disparaît tranquillement dans le noir. Quand le bleu du ciel sera voilé, que le soleil ne pourra plus percer. Lorsque ce jour viendra et que je partirai, crois-moi, je te réveillerai. Rendors-toi. Rendors-toi. C'est pas encore la fin du monde.
voir si le décor et les nouvelles sont mauvaises encore. Les gens se font beaucoup moins de bien que de tort. Sur tes deux oreilles, tu dors encore. Si les pleurs sont les joues en coulée, et le temps, plus rien ne peut changer. Lorsque ce jour viendra et que je partirai, crois-moi, je te réveillerai. Rendors-toi, pas encore la fin du monde. Pas encore.
Eh bien, on vient d'entendre Les jours de pluie par Alpha Rococo et ça correspondait parfaitement à mon texte que je vais continuer à vous lire. C'est donc Accro à la météo, c'est dans le Véro Magazine du printemps 2015. La météo n'a pas seulement un effet sur nos humeurs, elle a aussi un impact direct sur nos comportements, plus particulièrement sur nos instincts les plus primaires. Ce phénomène est pris très au sérieux par les scientifiques qui le désignent par le terme météosensibilité. Par exemple, des chercheurs des prestigieuses universités de Princeton et Berkeley ont montré que le nombre d'agressions et de meurtres commis tant par des hommes que par des femmes augmente lorsque la température monte. Ils ont jugé que ces résultats sont assez significatifs pour s'inquiéter des conséquences sociales du réchauffement climatique. Dame Nature influerait aussi sur nos désirs sexuels. Selon une étude des laboratoires Organon, portant sur 57 000 femmes âgées de 16 à 40 ans et vivant dans 10 différents pays, environ une sur deux se dit plus active sexuellement l'été et 37% d'entre elles estiment que leurs relations sont plus satisfaisantes à cette saison. Le rapport Degrees of Pleasure de la compagnie de préservatifs Trojan considère lui aussi que la météo joue un rôle fondamental en matière de sexualité. Néanmoins, selon cette étude, c'est plutôt l'index humidex qui est propice au rapprochement. 83% des Américains considèrent qu'un temps chaud et pluvieux, voire orageux, représente les meilleures conditions climatiques pour avoir des relations sexuelles. Notre générosité serait-elle aussi météo-sensible ? Des chercheurs de l'université de Temple à Philadelphie l'ont constaté en réalisant une expérience de type caméra cachée. Dans le restaurant d'un hôtel dont les vitres étaient opaques, un serveur annonçait aux clients venus prendre le petit déjeuner quel temps il faisait dehors. Il leur disait qu'il pleuvait, son pourboire était de 18,8% en moyenne, mais il grimpait de 29,4% s'il disait que la journée était radieuse. La météo nous pousse même à faire sous le coup de l'impulsion des achats qui sont pourtant lourds de conséquences. Une hausse de température de 10 degrés, supérieure à la normale, fait monter les ventes de voitures décapotables de 8,5% et baisser celles de voitures noires de 5,6%, d'après une étude menée par l'école de management Kellogg et diverses universités. L'effet de la nature sur nos comportements est si réel que les entreprises en ligne croisent aujourd'hui les données sur nos achats avec les données météo. La théorie est simple. Pourquoi investir une somme folle dans une campagne publicitaire quand le climat se chargera lui-même de faire vendre un produit ? Bien sûr, on n'a pas besoin d'avoir la bosse des affaires pour savoir que les chaises longues se vendent mieux l'été. Mais ce que révèle la météosensibilité de notre consommation, c'est justement que dans certaines conditions, nos achats vont contre le bon sens. L'exemple classique reste l'exploit réalisé par la chef de l'information de Walmart en 2004, alors que l'ouragan Frances allait frapper la Floride. Tandis qu'elle s'apprêtait à commander tous les articles jugés indispensables dans le cas d'une catastrophe naturelle, comme des génératrices, du pain, des bouteilles d'eau, elle a eu l'idée de consulter les habitudes d'achat de ses clients dans des circonstances similaires. À sa grande surprise, elle s'est rendue compte que les marchandises à acheminer de toute urgence étaient plutôt de la bière et des pop-tarts, en quantité 7 fois plus élevée qu'à l'habitude, et pas n'importe lesquelles, celles à la fraise. En janvier 1998, le Québec a été paralysé par une tempête de pluie verglaçante. En 2003, la canicule en Europe a fait 70 000 morts, dont 20 000 en France. En 2004, un tsunami dans l'océan Indien a fait 250 000 victimes. En 2005, l'ouragan Katrina a ravagé la Nouvelle-Orléans. Périodiquement, les forces naturelles se déchaînent pour nous rappeler qu'elles sont infiniment plus puissantes que nous et que notre technologie et notre volonté de dominer la nature font souffrir la planète. Malgré tout, de nombreux pays ne semblent pas prêts à cette prise de conscience. Le matin du 1er janvier 1997, les habitants de Pékin se sont éveillés devant une épaisse couche de neige digne d'un conte de fées. Cadeau de Dame Nature ? Non. Du Bureau des modifications météorologiques du gouvernement chinois. Cette armée de 37 000 employés, qui a à sa disposition des lance-roquettes, des canons et des avions, est chargée de contrôler le problème de la sécheresse dans le pays. Plutôt que de laisser un nuage passer son chemin pour qu'il éclate on ne sait trop quand ni où, elle le bombarde de particules d'iodure d'argent qui attirent les molécules d'eau pour le faire crever ici et maintenant. L'agence en question aurait provoqué 55 trillions de tonnes de pluie artificielle et compterait quintupler cette masse. Signalons que le prince William aurait eu recours à la même technique pour éviter les averses le jour de ses noces. En France, la France, l'Allemagne et les États-Unis travaillent eux aussi à déclencher la pluie ou même à guider des éclairs en projetant des faisceaux laser sur les nuages pour polariser leur champ électrique. Jouer ainsi avec les lois de la nature pourrait avoir quelque chose d'inquiétant. Mais il semble que même notre opinion sur l'état de la planète est météosensible. Selon la revue Climatic Change, les Américains sont prêts à croire au réchauffement climatique pendant une canicule, mais beaucoup moins pendant une vague de froid.
Personne n'aurait cru ce cave prophétisant que par malheur. Mon pauvre petit rat de cave, tu débarquerais avant l'heure. Tu n'étais pas du genre qui vire de bord et tous on le savait. Du genre à quitter le navire et tu es la première qui l'ait fait. Maintenant, mamie, qu'on te séquestre au sein des cieux. Que je me déguise en chanteur d'orchestre pour tes beaux yeux. En partant, mamie, je te l'assure, tu as fichu le noir au fond de nous. Quoi qu'on n'ait pas mis de crêpes sur nos putains de bignoux. On ne m'a jamais vu, faut que tu le notes, c'est une primeur. Faire un bœuf avec des croque-notes, c'est ton ton honneur. Sache aussi qu'en écoutant Béchette, folle gamberge, on voit la nuit tomber. Ton fantôme qui sautille en cachette, rue du vieux Colombier. Ton fantôme qui sautille en cachette, rue du vieux Colombier. Sans aucun au revoir mes frères, mais on ne t'en veut pas pour autant. Mine de rien, tu es allé faire ton trou dans les neiges d'antan. Des désormais, c'est pas des salades parmi Flora, Jeanne, Thaïs. J'inclus ton nom à la balade des belles dames du temps jadis. Maintenant, mamie, ta place est faite chez les gentils. Tu as retrouvé pour l'éternelle fête, papa Zouti. Chauffe la place à tous les vieux potaches, machin chose, et Luther et l'oignon, et ce gras du bide de moustache, tes fidèles compagnons. S'il est brave, pourquoi que Dieu le Père là-haut ferait quelques différences entre Saint-Pierre et Saint-Germain-des-Prés. De tout cœur, on espère que dans ce paradis miséricordieux brille pour toi des lendemains qui dansent où il n'y a pas de bon Dieu. Brille pour toi des lendemains qui dansent où il n'y a pas de bon Dieu.
Eh bien, c'était Georges Brassens, Élégie à un rat de cave. Et Sophie vient d'arriver, ça y est, le métro refonctionne ou t'es venue comment, en bus?
Alors, en fait, je suis
à pied.
Je suis rentrée chez moi quand j'ai vu qu'il n'y avait pas de métro et j'ai pris mon vélo et je suis venue le plus rapidement
voilà.
possible. Donc, je suis un peu transpirante au micro, mais ça ne se sentira pas, j'espère.
Donc, à toi, Sophie.
Donc, j'enchaîne en fait avec, avec un article que j'ai déniché pour vous cette semaine autour de la thématique de la sexualité, en fait. Donc, c'est un article qui s'intitule « Les nouveaux complexes du sexe ». Alors, j'aurai un premier article côté féminin et puis ensuite, sur le deuxième article, ce sera plus du côté masculin. Alors, je commence avec le premier pour la sexualité féminine, donc les nouveaux complexes du sexe, un texte d'Annabelle Nicou, paru dans le journal La Presse le 21 février 2015. Couper ses petites lèvres ou gonfler ses grandes lèvres, réparer son hymen ou infliger une cure de jeunesse à sa vulve. La chirurgie intime n'a jamais été aussi populaire. Pourquoi vouloir adapter son sexe au goût du jour? Regard sur un phénomène beaucoup moins intime qu'il n'en a l'air. Le sexe féminin soumis à l'esthétique. Les lèvres trop longues, trop pendantes, trop brunes, le vagin trop large. La liste de reproches que les femmes adressent à leurs parties intimes est longue. La mode est au complexe du sexe et depuis une dizaine d'années, le succès de la chirurgie intime ne se dément pas. Tout le monde s'accorde pour dire que c'est une épidémie de jeunes femmes qui demandent de la chirurgie et qui ne voient pas l'utilité des petites lèvres, constate la docteure Isabelle Girard, présidente de l'Association des obstétriciens et gynécologues du Québec. On a tous le même effarement. Aux États-Unis, le nombre de labiaplastie, qui est la réduction des petites lèvres, a ainsi bondi de 44% de 2012 à 2013. C'est la plus forte croissance du secteur après les implants fessiers, selon l'American Society for Aesthetic Plastic Surgery. Pardon. Au Canada, aucun chiffre n'est cependant disponible. Qui sont ces jeunes femmes? Alors, c'est très variable, ça commence très jeune, peut-être un des effets de l'hypersexualisation. Alors, on nous dit, par exemple, une fille de 12 ans dont la mère juge les petites lèvres anormalement grosses, ou une ado qui a tellement honte de l'apparence de son sexe qu'elle ne peut faire l'amour à la lumière. Ces cas rapportés par la gynécologue Céline Bouchard illustrent la forte demande pour la labiaplastie. Les critères de beauté sont que les petites lèvres ne devraient pas dépasser les grandes lèvres. On a beau leur dire qu'on est faite comme ça, elles ne l'acceptent pas. Pas plus que la coloration brune des parties génitales. Prise en charge par la Régie de l'assurance maladie du Québec quand les femmes témoignent d'une gêne physique, la labiaplastie est toutefois loin de faire l'unanimité chez les gynécologues. Il y a beaucoup de malaise dans notre profession, illustre la docteure Bouchard. Alors, par la suite... Donc, dans le fond, on nous dit « Après la guerre du poil, depuis l'avènement de l'épilation intégrale, le sexe féminin ne se dérobe plus au regard et révèle une anatomie encore mal comprise. Mise à nu, le sexe féminin est-il pour autant libéré ?» C'est une fausse idée de la libération, déplore Richard Poulain, professeur émérite de l'Université d'Ottawa, spécialiste de l'hypersexualisation et de la pornographie. Longtemps jugé érotique, le poil pubien a en effet disparu non pas sous l'influence de l'émancipation des femmes, mais plutôt à la suite de l'essor des magazines comme Playboy et Penthouse qui l'ont chassé de leurs photos pour contourner la censure. C'était la guerre du poil et elle a fait au moins une victime, la toison intime, reléguée dans l'univers du X à une sous-catégorie. Le sexe imberbe est devenu la norme et avec lui le souci d'avoir un sexe qui correspond au canon du moment. Dès qu'on a commencé à montrer des parties génitales sans poils, il a été question d'esthétiser cette partie du corps, dit Richard Poulain. Il suffit aujourd'hui de feuilleter des magazines féminins pour constater que des vedettes mettent volontiers leur entrejambe en valeur par leurs vêtements moulants ou par l'absence de pantalons. On pense par exemple à Miley Cyrus, Lady Gaga ou Beyoncé et affichent une plastie sans relief et sans débordement. Beaucoup de femmes voient des films porno où tout est clean, entre guillemets, et c'est ce qu'elles veulent. Je ne peux pas expliquer cette demande autrement qu'en disant « c'est notre société qui veut ça », explique le docteur Carlos Cordoba, chirurgien plasticien et esthétique de Montréal. Objectif abricot, cette quête n'épargne pas non plus les femmes plus mûres à qui la chirurgie esthétique promet un rajeunissement du sexe. Le docteur Cordoba observe que le lipofilling, l'injection de ses propres graisses dans les grandes lèvres, devient de plus en plus populaire auprès des femmes ménopausées qui cherchent à éviter que leur vulve « ratatine » entre guillemets. Les rides ne sont plus seulement traquées sur le visage et sur le cou, il faut aussi avoir des grandes lèvres et un mont de Vénus dodu. C'est important de ménager les attentes, dit-elle. Si une femme a 50 ans, malheureusement, elle n'aura pas une vulve de 20 ans, il faut apprendre aux patientes à s'accepter. Le but, ce n'est pas d'avoir 15 ans toute sa vie. Norme, la nymphoplastie est une opération relativement récente, mais l'idée de couper les lèvres, elle, n'est pas nouvelle. Tout au cours de l'histoire, en Occident et ailleurs, la religion puis la médecine n'ont pas épargné le sexe féminin. On peut penser qu'il s'est toujours agi de maîtriser, domestiquer la sexualité féminine et particulièrement l'organe sexuel féminin, afin de contrer l'horreur, l'angoisse et la fascination qu'il a toujours provoqué, dit Sarah Piazza, psychologue clinicienne près de Paris et docteur en psychopathologie et psychanalyse. En cela, on précise, se couper les lèvres et soumettre son sexe au mode n'est peut-être pas si éloigné des pratiques de mutilation comme l'excision ou d'autres pratiques fréquemment critiquées comme l'hyménoplastie qui consiste en fait à la restauration de l'hymen.
How far would I travel to be where you are? How far is the journey from here to a star? And if I ever lost you, how much would I cry? How deep is the ocean? How high is the sky?
Donc c'était Suzy Arioli avec All Deep Is the Ocean, si je ne me trompe pas. On a quelques brefs pour vous avec Dominique ce matin. J'ai été peut-être un petit peu intense pour le déjeuner là, avec mon article, alors on va enchaîner avec quelques brefs peut-être plus appropriés, j'ai envie de dire. Dominique, tu veux commencer pour les brefs?
Si tu veux. Alors,
vas-y.
Moi, je vais vous parler dans le jus. Les emballages se ressemblent, les marques se multiplient, les appellations prêtent à confusion et nous, on finit par s'y perdre un peu. Quelles sont les différences entre un jus 100% pur et un autre à base de concentré? C'est les jus de fruits, hein. Jus 100% pur se rapproche le plus d'un jus franchement pressé maison. Ne contient habituellement ni sucre ajouté ni additif. Peut avoir subi un traitement thermique ou une pasteurisation, ce qui cause une perte de vitamines, mais prolonge sa durée de vie. Par contre, le jus à base de concentré, il subit des transformations, l'eau est retirée du jus pour obtenir un concentré transportable à moindre coût, tout en préservant le produit. Arrivé à destination, le jus est reconstitué. Il peut contenir du sucre ajouté, et risque de perdre ses éléments nutritifs en cas de nombreuses transformations. Voilà.
Parfait. Donc, j'enchaîne avec une autre petite brève que j'avais préparée pour vous aujourd'hui. Dures les réalités de la vie. Selon un sondage mené récemment par la Banque royale auprès de 2400 jeunes Canadiens, à la fin de l'adolescence, nos jeunes seraient frappés par une crise de la vingtaine qui leur ferait voir la vie en gris. Ainsi, si entre 14 et 17 ans, 82% des jeunes se disent heureux, ce pourcentage chute à 66% chez les 18 à 21 ans, chez qui, pendant cette période, le stress et les inquiétudes bondissent de plus de 30%. Leurs principales préoccupations, dans l'ordre, l'argent, les actualités mondiales, l'emploi, le choix de carrière et les parents. Dominique, on peut enchaîner?
Oui, alors en dehors des jus de fruits, il y a l'aloe vera qui se boit. Présent depuis très longtemps dans nos produits de beauté, cet aloe apaisera les irritations, favoriserait la cicatrisation et augmenterait l'hydratation. Bien que ses vertus n'aient pas été démontrées scientifiquement, cette plante médicinale, qu'on trouve sous forme de gel, de feuilles, de gélules, a trouvé pignon sur tablette dans les pharmacies et dans les magasins d'aliments naturels. On en fait même des jus qui se veulent détoxifiants et purifiants. Leur pulpe en suspension rend la texture particulièrement intéressante. Reste à prouver leur efficacité, mais c'est tentant. Voilà.
On continue côté cuisine avec une dernière petite brève. Quoi faire avec un reste de fromage? Ajouter du fromage à un plat lui donne de la saveur et une belle texture, en plus de l'enrichir en calcium. Alors, trois façons de passer un reste qui traîne dans le frigo, pour autant qu'il ne soit pas moisi. Parmesan. Râpé, le parmesan est parfait pour épaissir une sauce. On ajoute les croûtes à nos soupes et bouillon en début de cuisson. Le fromage à pâte molle, comme le brie par exemple, coupé en morceaux, la croûte enlevée, il donnera un petit oomph à une quiche ou une omelette. Désolée pour l'imitation assez douteuse. Et enfin, le fromage à pâte ferme, comme par exemple le cheddar fort, coupé en cubes, on l'insère dans nos boulettes de viande ou végé.
Assis tout seul au fond d'un bar d'une ville lointaine, tu fuis les gens et les regards, mais un chasseur t'a vu. Un cahier de gueule de star qui veut te mettre à l'aise avant qu'il ne soit trop tard. T'es mieux de filer à l'anglaise. Attention, attention, y a un plus fou qui te pique. Attention, attention, y'a un chauffard qui sniffe ta ligne de vie. Un orateur fait son discours, à ses pieds la foule se presse. Il manie bien le calembour autant que les promesses. Comme il veut refaire le monde, c'est à toi qu'il s'adresse. Mais malgré tout ce qu'il raconte, t'entends comme un SOS. Attention, attention, y a un plus fou qui te pique et t'affole. Attention, attention, y a un chauffard qui sniffe. Se taise, il a des plans et des idées, des millions sous sa chaise. Toute sa vie est une affaire et tu en fais partie. Si tu ne veux pas manquer d'air, garde un œil sur la sortie. Garde un œil sur la sortie. Attention, attention, y a un plus fou qui te pique. Attention, attention, y a un chauffard qui sniffe ta ligne de vie.
chauffard qui sniff la ligne de vie.
À l'antenne Kiosque Magazine, nous écoutions Daniel Lavoie avec Tension, attention.
Et Safia est là parmi nous.
Oui. Elle est arrivée.
L'équipe est complète, c'est bon.
Bonjour à tous.
Donc, c'est un article issu du Coin du Coach par David Bernard dans le Moi et compagnie de mai 2015. Faire sa chance, c'est possible. Vous considérez-vous davantage comme une personne chanceuse ou malchanceuse ? C'est la question du jour. Croyez-vous qu'il soit possible d'influencer votre chance ? Pendant des années, j'ai développé la croyance profonde et limitative que j'étais malchanceux. Je naviguais de difficulté en difficulté, en ayant souvent l'impression que je ne verrais jamais la lumière au bout du tunnel, que c'était mon destin. Jusqu'au jour où j'ai fait une lecture qui a radicalement changé ma perception à ce sujet. En 2003, le docteur Richard Wiseman, éminent chercheur en psychologie à l'université de Hertfordshire, en Angleterre, a publié un livre fascinant intitulé « Le facteur chance ». Après 3 années d'études et d'expérimentations menées auprès de plusieurs centaines de volontaires, Wiseman est arrivé à l'incroyable conclusion que la chance pouvait se développer. Dans une de ses célèbres expériences, il a même réussi à le prouver. Une équation toute simple. Selon Wiseman, la chance est en fait une équation très simple. Chance égale préparation plus opportunité. Par conséquent, pour être chanceux, il faut d'abord se préparer au meilleur de nos capacités, jusqu'à ce qu'une opportunité se présente. Une fois qu'elle sera placée sur notre chemin, puisqu'on sera prêt, il nous suffira de la saisir comme un fruit bien mûr. Jusque-là, tout va bien. Voilà où réside le défi. La préparation repose entièrement dans nos mains. Mais nous n'avons aucun contrôle sur l'opportunité. Elle peut ne jamais se présenter. La question suprême est donc, comment fait-on pour influencer le cours des choses, l'opportunité, en notre faveur ? Pour répondre à la question, notre sympathique docteur a effectué un test scientifique à la fois simple et rigoureux. Il a passé une annonce dans le journal stipulant qu'une firme spécialisée était à la recherche de personnes se considérant comme chanceuses et d'autres personnes se considérant comme malchanceuses. Les participants devaient ensuite se rendre à un bistrot où on avait laissé tomber sur le sol à l'entrée un billet de 5 dollars. Évidemment, les caméras cachées filmaient leur réaction. Les résultats furent extrêmement révélateurs. Presque tous les individus, se considérant comme chanceux, ont remarqué le billet, tandis que ceux, se considérant comme malchanceux, sont presque tous passés à côté sans le voir. Même occasion, différentes stratégies. Le docteur Wiseman est arrivé à la conclusion que la chance est déterminée par un facteur crucial, l'acuité sensorielle. En clair, les personnes plus chanceuses ont développé l'habitude de remarquer davantage les opportunités en observant les choses. Je sais, c'est simple. Et pourtant, c'est si vrai. Les gens qui sont à l'affût des occasions finissent toujours par en trouver. C'est prouvé. Je vous confirme que j'ai appliqué cette théorie et qu'elle a influencé ma vie positivement. Je vous invite donc à réfléchir à ceci. En ce moment, cherchez-vous davantage les problèmes ou les opportunités. Petit encadré pour faire sa chance en 3 étapes. Clarifiez ce que vous désirez comme opportunité. Plus vous savez ce que vous cherchez, plus vous aurez de chances de le trouver. Ensuite, préparez-vous, comme si l'opportunité était sur le point de se présenter. Le plus triste n'est pas que l'occasion ne se produise jamais, mais que vous ne soyez pas suffisamment prêt lorsqu'elle se trouvera sur votre chemin. Enfin, développez votre capacité à contempler votre environnement. Observez au lieu de simplement regarder. Écoutez au lieu de simplement entendre. Ressentir au lieu de simplement vous en dégourdir. Enfin, vous avez compris, je vous souhaite à tous la plus belle chance possible. Thank you.
donc on continue, en fait, on continue, oui. Donc, sur ma préparation d'aujourd'hui, pardon, autour de la sexualité féminine et masculine, je vous ai fait une petite présentation des enjeux de la sexualité féminine et je poursuis avec les enjeux de la sexualité masculine, avec un premier texte intitulé « Pénis, suis-je normal ?», un texte de l'agence France Presse paru dans le journal La Presse le 3 mars dernier. Alors, une nouvelle analyse donne un aperçu sur ce qui est considéré comme « normal », entre parenthèses, pour la longueur et la circonférence du pénis, vrai sujet de préoccupation chez certains hommes. Ce travail, publié dans la revue d'urologie spécialisée, le BGU International, pourrait être utile pour conseiller des hommes inquiets de la taille de leur sexe, parfois jusqu'au point d'être atteints de dysmorphophobie, qui est en fait la peur démesurée d'un défaut corporel ou lors d'enquêtes sur la relation entre l'échec du préservatif et les dimensions du pénis. Dans ce but, Dr. Davis Veal, King's College London à Londres, et ses collègues ont créé, à l'aide d'une analyse d'études médicales choisies, un schéma graphique, un nomogramme, on nous dit, qui représente la distribution de la taille d'un pénis au repos ou en érection, incluant les variations normales. Il s'agit d'un diagramme ressemblant à ceux utilisés pour évaluer les courbes de croissance, poids et taille des enfants avec les écarts qui restent dans la normale. Pour mener à bien cette œuvre d'utilité publique, les médecins britanniques ont utilisé 20 études englobant plus de 15 500 hommes dont le pénis avait été mesuré selon une procédure standardisée par des professionnels de santé. Pour le Dr Veal, ces graphiques aideront les médecins à rassurer la grande majorité des hommes que la taille de leur pénis est dans la fourchette normale. Ces derniers admettent toutefois des biais possibles, certains participants à ces mesures parce que plus sûrs de la taille de leur sexe, des variations de température influant sur les résultats, etc., et préconisent de poursuivre et parfaire cette exploration. L'Académie française de chirurgie avait livré des données similaires en octobre 2011 en mettant en garde contre les demandes de chirurgie du pénis qui peuvent être superflues et non dénuées de risques. Le sentiment d'un pénis de taille insuffisante est pour l'homme source d'anxiété ou de souffrance psychologique, soulignait cette institution savante face à la demande souvent pressante d'une chirurgie correctrice. Elle se déclarait soucieuse de sensibiliser le public à l'inutilité et au risque de toute chirurgie sur un pénis de dimension normale et physiologiquement actif. Alors, dans un avis rendu public, elle indiquait en note une longueur moyenne, on nous dit entre parenthèses au repos, de l'organe masculin de 9 à 9,5 cm, en érection de 12,8 à 14,5 cm, ainsi qu'une valeur moyenne de sa circonférence au repos de 8,5 à 9 cm et en érection de 10 à 10,5 cm pour les tailles, messieurs. Alors, j'enchaîne ensuite avec un autre article. Plus scientifique sur une nouvelle étude qui est parue, intitulée, en fait c'est un article qui s'intitule « Les hommes qui s'entraînent ont moins de problèmes érectiles », c'est donc un article paru dans le journal La Presse le 24 mars dernier. « Les hommes qui s'entraînent ont une meilleure fonction sexuelle et érectile », nous dit-on. C'est ce qui était démontré par une nouvelle étude publiée par le journal « Medical Sexual Medicine ». Les chercheurs de l'hôpital Cedars-Sinai ont indiqué que cette conclusion s'applique à tous les hommes, peu importe leur origine. Près de 300 sujets ont été interrogés autant au sujet de leur niveau d'activité physique qu'au sujet de leur fonction sexuelle. Les scientifiques ont constaté que ceux qui ont dû faire 2 heures d'activité physique intense par semaine, 3,5 heures d'activité modérée ou 6 heures d'activité légère rapportaient aussi la meilleure fonction sexuelle. En revanche, les hommes qui s'entraînaient le moins déclaraient aussi une fonction sexuelle moindre. Le diabète, l'âge, le tabagisme actuel ou passé et la maladie coronarienne contribuaient aussi à une mauvaise fonction sexuelle. Un chercheur a prévenu que tout entraînement doit être adapté à celui qui l'effectue, avant de rappeler que même un peu d'activité physique est préférable et toujours préférable à la sédentarité. Et puis dernière étude scientifique. Avec un article intitulé « Le travail manuel et l'hypertension menacent la fertilité des hommes ». Donc, semble-t-il, c'est toujours une affaire de dose. Là, dans ce cas-ci, le travail manuel et l'hypertension menacent la fertilité des hommes. Donc, toujours dans le journal La Presse, en date du 10 mars dernier, les hommes qui occupent un emploi exigeant physiquement, qui souffrent d'hypertension ou qui prennent plusieurs médicaments, mettent possiblement leur fertilité en péril, prévient une nouvelle étude. Les chercheurs de l'université Stanford et des instituts nationaux de la santé des États-Unis seraient les premiers à s'être intéressés au lien entre l'effort physique au travail, la santé et la qualité du sperme d'homme qui essaie d'avoir un bébé. Les scientifiques ont étudié 456 hommes recrutés au Texas et au Michigan et ayant un âge moyen de 32 ans. Ils ont constaté que 13% des hommes qui occupaient un emploi exigeant physiquement présentaient une réduction des spermatozoïdes comparativement à 6% des hommes dont l'emploi n'était pas aussi fatigant. Parmi les hommes souffrant d'hypertension artérielle, de diabète ou d'hypercholestérolémie, seuls ceux atteints d'hypertension avaient un pourcentage moindre de spermatozoïdes normaux. Enfin, 15% des hommes qui prenaient au moins 2 médicaments par jour produisaient moins de 39 millions de spermatozoïdes par éjaculation, ce qui est quand même pas mal, alors que la normale varie entre 40 millions et 300 millions. Un des chercheurs, le docteur Buck Lewis, s'est toutefois réjoui qu'il s'agisse uniquement de facteurs modifiables. Les conclusions de cette étude sont publiées en ligne par le journal Medical Fertility, par le journal médical Fertility and Sterility.
Afin de nous ôter nos complexes au gay, au gay. On nous donne des cours sur le sexe au gay, au gay. On apprend la vie secrète des angoisses et de la bébête. Ou de ceux qui trouvent dégourdis de montrer leur bigoudi. Une institutrice très sympathique nous en explique toute la mécanique. Elle dit nous allons planter le décor au gay, au gay. De l'appareil masculin d'abord au gay, au gay. Elle s'approche du tableau noir. On va peut-être enfin savoir quel est ce monstre sacré qui a donc tant de pouvoir. Et sans hésiter, elle nous dessine le petit chose et les deux orphelines. Tout, 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 vous saurez tout sur le zizi. Le vrai, le faux, le laid, le beau, le dur, le mou qui a un grand coup. Le gros touffu, le petit joufflu, le grand ridé, le montpelé. Tout, 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 je vous dirai tout sur le zizi. Des zizi, il y en a toutes les couleurs, au gay, au gay. Des boulangers jusqu'au ramoneur, au gay, au gay. J'en ai vu des impulsifs qui grimpaient dans les calcifs. J'en ai vu de moins voraces tomber dans les godasses. Suis d'un mécanicien en détresse qui a jamais pu réunir ses pièces. Y'a le zizi tout propre du blanchisseur au gay, au gay. Celui qui a mis donne la main de ma sœur au gay, au gay. J'ai vu le zizi d'un curé avec son petit chapeau violet qui juste en pleine ascension fait la génuflexion. Un lever de zizi au crépuscule et celui du pape qui fait des bulles. Tout, 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 vous saurez tout sur le zizi. Le vrai, le faux, le laid, le beau, le dur, le mou qui a un grand coup. Le gros touffu, le petit joufflu, le grand ridé, le montpelé. Tout, 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 je vous dirai tout sur le zizi. Le zizi musclé chez le routier au gay, au gay. Se reconnaît à son gros col roulé au gay, au gay. J'ai vu le zizi affolant d'un trapéziste ambulant qui apprenait la barre fixe à ses petits enfants. L'alpiniste et son beau pic à glace magnifique au-dessus des grandes jorasses. J'ai vu le grand zizi d'un petit bedeau au gay, au gay qui sonne l'angélus les mains dans le dos au gay, au gay. Celui d'un marin breton qui avait perdu ses pompons et celui d'un juif cossu qui mesurait le tissu. Celui d'un infirmier d'ambulance qui clignotait dans les cas d'urgence. Tout, 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 vous saurez tout sur le zizi. Le vrai, le faux, le laid, le beau, le dur, le mou qui a un grand coup. Le gros touffu, le petit joufflu, le grand ridé, le montpelé. Tout, 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 je vous dirai tout sur le zizi. J'ai vu le petit zizi des aristos, gay, gay.
Bon retour sur le kiosque magazine après cette interlude musicale de Michel Pierret. Et nous retrouvons notre article suivant de la semaine dernière sur les 18 raisons de croire en l'avenir. Donc c'était un article rédigé dans le Elle Québec, pardon, de mai 2015.
Avril, pardon.
Sous la plume de Kenza Bénis, Violaine Charré-Sigouin et Dominique Forger. Nous avions vu que les violences sont en baisse, on vit dans un monde meilleur, on consomme différemment le féminisme à la cote, on a pris le virage vert, les géants se réveillent et on peut apprendre à changer le monde. Qu'en est-il de la suite? Figurez-vous qu'on achète moins et mieux. Selon le dernier rapport du baromètre de la consommation responsable, les Québécois multiplient les efforts pour réduire leur empreinte écologique. Ils sont ainsi 88,5% à considérer qu'il faut revoir nos modes de vie et de consommation et 65,2% à privilégier les produits plus durables. On trouve des solutions pour enrayer la famine. En Australie, des chercheurs ont mis au point une banane génétiquement modifiée enrichie en vitamine A. Leur innovation pourrait sauver la vie de milliers d'enfants africains souffrant d'une carence en vitamine A qui risque d'entraîner la cécité et la mort. Nos enfants sont notre richesse. Ce qui me rend optimiste, nous dit François Massicotte, humoriste, c'est de voir l'importance que les enfants ont dans notre société. Il y a quelques mois, j'ai été impressionnée par la réaction très favorable du public à la campagne de Noël de la Fondation du Centre Jeunesse de Montréal, dont je suis le porte-parole. Il s'agissait d'offrir des cadeaux aux enfants qui n'ont pas la chance d'en recevoir et beaucoup de gens ont répondu présents. Ce qui est très encourageant. Nous avons également une nouvelle génération qui est encore plus engagée. Selon une étude américaine, la génération Z serait plus tolérante envers les différences raciales, moins sexiste et plus soucieuse de l'environnement que celles qui l'ont précédée. Les résultats de cette étude relèvent aussi que 60% des jeunes nés après les années 2000 aimeraient accomplir un travail qui puisse améliorer le monde, alors que seulement 39% des membres de la génération Y avaient une telle ambition. Nous avons des villes qui osent le changement. Anne Hidalgo, la mairesse de Paris, s'est donnée pour mission de faire de la ville lumière un îlot d'air pur. Son plan prévoit d'interdire certaines zones urbaines aux camions polluants, de doter la capitale d'une flotte de véhicules propres, de multiplier les bornes de recharge pour voitures électriques et de financer les entreprises et les citoyens qui décident d'acquérir un véhicule hybride électrique. En prime, ces derniers bénéficieront d'un stationnement gratuit dans les rues de Paris. Également, les jeunes se mobilisent. Je suis pleine d'espoir pour l'avenir quand je vois tous ces jeunes qui défendent des causes. On se rappelle le printemps érable, n'est-ce pas? Et les trouve allumés, visionnaires, débrouillards, nous dit Edith Coran, actrice et animatrice. Enfin, les victimes brisent le silence, ainsi d'Isabelle Blais qui prend position à l'encontre des agressions sexuelles, des percées médicales remarquables. Nous sommes davantage solidaires, comme l'a montré les derniers événements de Charlie Hebdo. Et enfin, dernier élément, on parvient à se faire entendre grâce aux réseaux sociaux notamment.
Donc l'émission est déjà finie, c'était une heure un petit peu chaotique et on s'en excuse, c'était donc au métro. Donc si vous avez des commentaires, merci quand même à vous pour votre écoute et pour votre présence. Pour tout commentaire, contactez-nous au 1-800-361-0635 poste 220 ou bien écrivez-nous à notre adresse courriel canalm@vusezvoix.com. Merci à Jean-Sébastien Laliberté pour la mise en onde et à toute l'équipe. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Merci. Au revoir. Merci.